Mirambira sa Mirana. Nous sommes le lundi 26 avril 2021. Vous suivez la radio Nzamba Agathe Kakawe. C'est l'heure du journal. Tout d'abord les titres. Enfin, la grâce présidentielle est effective. La libération de plus de 5000 prisonniers concernés a été lancée ce lundi à la prison centrale de Mimba à Bujumbura par le président Evariste Ndayishimiye. Les dégâts causés par la montée des eaux du lac Tanganyika continuent à s'aggraver. C'est le cas à Rumonge au sud du pays où les nombreux ménages affectés par ce phénomène réclament une assistance d'urgence. Et puis ce 26 avril 2021 marque la sixième commémoration du début des manifestations contre le troisième mandat inconstitutionnel du président Pierre Nkurunziza. Des manifestations réprimées dans le sang et dont les représailles se poursuivent jusqu'à aujourd'hui avec des victimes qui se comptent par milliers. Voilà pour les titres. À la présentation, vous êtes avec Valérie Mucho. Bonjour, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous.
Suivez les émissions de la radio Nzamba en direct sur le www.nzamba.org.
972 détenus à la prison centrale de Mimba à Bujumbura vont passer leur première nuit dans leurs familles respectives. Ils ont été libérés par décret présidentiel le 31 décembre 2020. Dans son discours à l'occasion du lancement de la mise en exécution de ce décret, le président de la République a exhorté les magistrats à la bonne gouvernance au sein de l'appareil judiciaire. Evariste Ndayishimiye a demandé à ce que désormais aucun prisonnier ne dépasse 3 mois sans être jugé. Écoutons.
Aux prestataires au sein de la justice, vous savez que moi aussi, la Constitution me confère la qualité de magistrat suprême. Je voudrais vous assurer que nous tous magistrats pouvons conjuguer nos efforts ensemble pour asseoir une bonne gouvernance au sein de l'appareil judiciaire. Vous avez remarqué que le décret est sorti il y a longtemps, mais sa mise en application n'a pas suivi d'effet. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de fichier de suivi des détenus à partir de leur arrestation jusqu'à leur condamnation. Nous aimerions que ça change pour enfin parler de la bonne gouvernance au sein de l'appareil judiciaire. On pourrait avoir la situation de chacun des détenus par rapport à son comportement ou sa peine déjà purgée. Les agents de la police judiciaire des parquets doivent enregistrer les présumés coupables à partir de leur arrestation, ainsi de suite. Comme ça, si la décision tombe, elle soit mise en application immédiatement. Vous savez combien c'est dur de rester en prison alors qu'on a bénéficié de la grâce. Dans ce cas, on n'a pas été alors artisan d'une bonne gouvernance dans la justice. Accélérons les procès parce que ce n'est pas aisé de passer une longue période en prison sans avoir été jugé. Nous souhaiterions qu'aucun prévenu ne dépasse 3 mois en prison sans jugement. Sachez que être magistrat est aussi une vocation comme les prêtres, comme les militaires. Ne soyez pas heureux quand d'autres coupissent. Accélérons donc les procès.
Signalons que 120 détenus, dont 13 femmes et 107 hommes de la prison de Muyinga, ont aussi été libérés ce lundi. Plus de 5000 détenus sont concernés par cette grâce présidentielle. Dégradation de la santé de l'adolescente de 17 ans qui a été tabassée il y a près d'un mois par le procureur du parquet de Bururi. Sa famille s'inquiète et demande que le ministre de la Justice prenne cette question en main. Le point avec Raoul Nienguruze.
Comme l'indiquent des sources au sein de sa famille, la santé de cette adolescente qui étudie au lycée communal Nyanzarak se dégrade du jour au jour. Elle a été tabassée le 21 mars dernier par Agricole Ndayitwaeko, procureur du parquet de Bururi. La jeune fille a été hospitalisée dans l'un des hôpitaux locaux avant d'être transférée à la mairie de Bujumbura. Après le scanner, l'examen a confirmé qu'elle a eu une fracture au niveau du crâne, selon une source familiale. Les voisins et parents ont contribué à payer les soins de santé qui s'élèvent à environ 2 500 000 de francs burundais. Selon les proches de la victime, le tortionnaire n'est pas inquiété, même s'il a été convoqué devant le procureur général de la République à mairie de Bujumbura. Devant son chef, Agikonda Itwayeko a même reconnu la faute, promettant qu'il payera la facture déjà consommée, mais ce dernier n'a pas honoré son engagement. La même source indique qu'au lieu de payer la facture, il a commencé à intimider le père de la victime en voulant récupérer différentes factures des soins pour fausser les enquêtes. Signalons que cette adolescente avait été tabassée par Agikonda Itwayeko après plusieurs sollicitations sexuelles, ce que cette dernière aurait refusé. Les habitants de la localité demandent au ministre de la Justice et au chef de l'État de prendre en main ce dossier, car selon eux, non seulement la santé de cette adolescente est en danger, mais aussi elle a interrompu ses études. Depuis le début du troisième trimestre, elle ne s'est pas présentée à l'école. La radio Inzamba a cherché à joindre Agikonda Itwayeko, mais sans succès.
Inzamba. Les états généraux sur l'éducation sont inévitables pour dégager des solutions durables à tous les problèmes liés à l'éducation. C'est ce que suggère le professeur universitaire libéral Nivashira Kandi. C'est dans ce contexte où les retards dans le décaissement du prêt bourse fait des victimes au sein des étudiants de l'université nationale. L'un parmi ces étudiants est même décédé en fin de semaine dernière suite au manque de nourriture, selon ses camarades. Libéral Nivashira Kandi parle aussi d'autres conséquences liées à ce type de problème, comme ce retard récurrent de la bourse. On l'écoute.
Il est urgent qu'il y ait des états généraux non politisés et dans lesquels les participants seront choisis sur base des compétences dans le secteur de l'éducation. Ces états généraux seront organisés dans la plus grande transparence en associant toutes les forces vives de la nation. Parce que ce qu'on a vu au fin 2014, ces états généraux aboutiraient à une véritable politique de refondation du système éducatif burundais. Et cette question de conditions de vie des étudiants des universités burundaises devrait être abordée et au cours de ces états généraux, il faudra absolument arriver à arrêter une solution pour le long terme, pour que le drame s'arrête pour de bon. Les conséquences du retard de paiement de la bourse sont multiples. Il y a bien sûr ces décès, il y a la santé jeunes étudiants qui se détériorent avec une conséquence grave, bien sûr, sur la qualité de l'apprentissage de ces étudiants. Et le Burundi restera à la traîne des nations développées ou des nations en développement, comme c'est le cas aujourd'hui. Le Burundi manque des responsables visionnaires qui mettent en avant l'intérêt général des citoyens burundais et en particulier des générations actuelles et futures.
Signalons que les étudiants du Burundi ont lancé un appel à la solidarité. Ils doivent rassembler la somme de près d'un million de francs pour pouvoir acheminer le corps du défunt vers sa commune natale pour son inhumation. La montée des eaux du lac Tanganyika continue à occasionner des dégâts matériels. Jusqu'à ce dimanche 25 avril, plus de 600 ménages étaient touchés par le phénomène. Les familles victimes ont notamment peur d'attraper les maladies des mains sales. Ces familles demandent au gouvernement et aux autres organisations humanitaires de leur venir en aide en leur fournissant de l'eau et de la nourriture. Les détails avec Alice Akimana.
Des sources officielles indiquent que jusqu'à ce dimanche, 615 ménages étaient complètement inondés par les eaux du lac Tanganyika. Les collines les plus touchées sont notamment Kanyengoko, le quartier Swahili, Iteba, Ngayamba, Kizuka et Minago, toutes de la commune de Rumonge. Parmi ces ménages, 234 ont été assistés, tandis que 32 sont hébergés au centre appelé Semina de la commune de Rumonge. Actuellement, les habitants de ces localités se disent préoccupés par leur hygiène, parce que les eaux qui ont inondé leur maison ont fait déborder les toilettes et les déchets se retrouvent mélangés à l'eau du lac Tanganyika qu'ils utilisent pourtant au quotidien. Ils ont peur d'attraper des maladies liées au manque d'hygiène. Ces habitants demandent au gouvernement ainsi qu'à d'autres bienfaiteurs de leur venir en aide en leur fournissant de l'eau potable et en désinfectant les lieux où ils sont installés. Nous n'avons pas pu joindre le gouverneur de la province de Rumonge pour qu'il nous dise ce qu'il envisage faire pour aider ces personnes qui sont en situation d'urgence sanitaire.
La visite du ministre burundais des Affaires étrangères, Albert Shingiro, dans les pays européens témoigne de la crise économique que traverse le Burundi. Aujourd'hui, le pouvoir veut tendre la main aux pays qu'il a tant injurié comme étant de simples colonisateurs. C'est la lecture que fait le mouvement d'action patriotique MAP Burundi Buhire. Le président de cette coalition, Emery Pacifique Gilaneza, indique que ce serait l'une des raisons qui aurait poussé à ce que le ministre des Affaires étrangères burundais ne soit reçu que par de simples équipes techniques et non par ses homologues. Reportage signé par Nadine Morakeye.
La visite du chef de la diplomatie burundaise Albert Shingiro dans les pays européens est une honte pour le Burundi, un pays qui a déjà atteint le seuil de pauvreté et pour qui les dirigeants tiennent des propos injurieux envers les Européens qui qualifient de colonisateurs. Ceci est la lecture du mouvement MAP Burundi Buhire. Emery Pacifique Gilaneza est le président de ce mouvement.
Shingiro sera en Europe pour des raisons évidentes. La pauvreté au Burundi a atteint un niveau qu'elle n'avait jamais atteint dans l'histoire moderne de ce pays. Il faut voir un PIB de 267 dollars pour comprendre à quel point nous nous enfonçons dans la pauvreté. C'est le résultat d'un leadership médiocre et du manque de capacité des dirigeants à écouter quand les gens les avertissent. Maintenant, ils reviennent pour supplier ces mêmes personnes qu'ils ont insultées. La visite de Shingiro sera l'un de ces rares moments où la communauté internationale l'amènera à l'endroit qu'il mérite. De manière très diplomatique, il sera traité comme un technicien, un simple technicien, qui rencontrera des équipes techniques dans les pays qu'il compte visiter avec peu de chances d'être reçu par ses homologues, les ministres des Affaires étrangères.
Quand Albert Shingiro était le représentant permanent du Burundi auprès des Nations Unies, il a tenu des propos négationnistes par rapport au génocide des Tutsis du Rwanda de 1994.
Permettez-moi de rappeler le représentant du Rwanda que le Burundi n'a pas de leçon à recevoir de ce pays-là. À sa place, je m'aurais tu. En ce qui nous concerne, c'est un pays qui se dit victime d'un génocide présumé. Donc, c'est pas une bonne référence pour les droits de l'homme.
Cette représentation de l'image même du ministre Shingiro au sein de la communauté internationale fait de lui une personne à éviter. Pour MAP Burundi Buhire, ce serait l'une des raisons qui aurait motivé le fait qu'il ne rencontrera pas ses homologues ministres, mais plutôt des équipes techniques.
Il est triste que le Burundi ait des dirigeants méprisés par le reste du monde en raison de leur arrogance et de leur insulte envers le monde, y compris l'Union européenne. Il insultait les colonisateurs, maintenant il revient pour commander, donc que ces mêmes colonisateurs puissent lui aider. Vous savez que Shingiro est la mauvaise personne pour même représenter le Burundi dans ces discussions. Nous parlons ici d'un chef de la diplomatie burundaise qui a nié le dernier génocide du XXe siècle, celui des Tutsis du Rwanda, et qui représente un gouvernement dont les actes actuels font craindre un autre génocide au Burundi. L'Union européenne devrait taire à recevoir un négationniste du génocide, si par exemple c'était un négationniste du génocide contre les Juifs. Et est-ce que cette personne serait reçue par ces pays et par cette institution? Je pense que non.
Le mouvement MAP Burundi Buhire demande à ce que le respect des droits humains et le rétablissement d'un état de droit au Burundi soient des conditions sine qua non à la reprise de la coopération.
Nous sommes le 26 avril, il y a 6 ans jour pour jour, les Burundais se sont levés pour défendre un état de droit garanti par la Constitution et l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation signé en 2000. Telle était la raison des manifestations contre le troisième mandat de feu le président Pierre Nkurunziza. Pour la société civile burundaise et l'opposition, ils avaient organisé des manifestations pacifiques afin d'exiger au parti au pouvoir, le CNDD-FDD, de désigner un candidat autre que Pierre Nkurunziza. Mais le mouvement a été réprimé dans le sang par les corps de sécurité, appuyé par la milice Imbonerakure. Un bref rappel des faits avec Joséphine Jones Munzimana.
C'était un un dimanche du 26 avril 2015 pas comme les autres. Les habitants des quartiers de Bujumbura avaient répondu présents aux manifestations sur demande des membres de la société civile et des politiciens de l'opposition et une partie des frondeurs du parti CNDD-FDD. Inanimement, c'était un combat pour un état de droit, l'arrêt des massacres au peuple burundais, selon Justine Murundiza, l'une des femmes qui se sont levées sur le compte des associations féminines.
Il fallait qu'on se lève avec les autres pour combattre cette idée de violer la constitution, cette idée de violer l'accord d'Arusha, un accord pour nous qui est très très important, un accord qui avait d'ailleurs commencé à apaiser le pays, à arrêter le bain de sang qui est versé tous les 10 ans. Les femmes étant des donneuses de vie en ont marre de ces enfants, de leurs enfants qui sont tués au jour le jour. Il fallait que ça s'arrête. Nous étions très contentes de cet accord. Donc le troisième mandat venait violer les accords d'Arusha, donc l'accord d'Arusha. Il fallait alors se lever pour la faire respecter. Et c'est pour ça que les femmes se sont levées.
Les corps de sécurité et les miliciens Imbonerakure lourdement armés se sont déployés au lieu des manifestations pour les réprimer. La dite répression s'est étendue à l'intérieur du pays, surtout dans les provinces de Bujumbura et Bururi. Plus de 500 000 Burundais ont fui le pays vers d'autres pays voisins ou d'autres continents. Selon les associations de défense des droits humains, plus de 2 500 Burundais ont été tués. Plus de 11 000 ont été arrêtés et emprisonnés, des centaines portés disparus. Les cas de violations graves des droits humains, y compris le viol, se sont multipliés. Ainsi, se plaintent des avocats des victimes de cette répression. Le Burundi est sous une enquête de la Cour pénale internationale depuis octobre 2017 et sous sanctions économiques de ses principaux bailleurs de fonds dans l'Union européenne.
Terminons ce journal par cette page nécrologique. Le général Cyril Ndayirukiye est décédé ce samedi à la prison de Gitega. C'était un homme intègre, responsable, soucieux de la protection des Burundais durant les différentes crises qui ont endeuillé le pays. C'est le témoignage de l'ancien président du Burundi, Frédéric Bamvuginyumvira, et qui a travaillé avec Feu Ndayirukiye. Frédéric Bamvuginyumvira explique que le général Cyril Ndayirukiye avait un comportement exceptionnel par rapport aux autres militaires dans leurs activités de tous les jours. Pour lui, les jeunes Burundais devraient s'inspirer de lui, car il défendait toujours l'intérêt du pays et des Burundais. Écoutons-le.
Général Cyril Ndayirukiye, c'était un personnage particulier. Effectivement, je l'ai rencontré au Conseil des ministres, au gouvernement, et les ministres, on voit leur penchant ou leur pensée, et quand on échange au Conseil des ministres, parce qu'on échange réellement et en profondeur, parce qu'on doit étudier des dossiers. Et à cette époque-là, il y avait l'insécurité qui perdurait, parce qu'il y avait d'un côté les rebelles, et il y avait de l'autre le gouvernement, qui était combattu par les rebelles, et le gouvernement qui devrait absolument protéger le territoire. Il y avait dans ce gouvernement des Bahoutous, des Batoutis, des Frodebous, des Upronistes, mais lui comme militaire, et bien entendu, il était supposé être neutre. Alors, j'ai observé en lui un homme de centre, parce que tout simplement, quand les autres prenaient la parole pour condamner les actions des Hutus, les actions des Tutsis, lui, il essayait d'intelliger les actes qui se commettaient sur le terrain en essayant de comprendre la situation telle qu'elle se vivait sur le terrain. Le premier souvenir, c'est lorsque, à un moment donné, les Bahoutous qui avaient été traqués par des jeunes Batoutis ou des militaires Tutsis dans des écoles, le général Cyril, il a essayé de les rentrer en leur disant, voilà, reprenez le chemin de l'école, on va vous sécuriser, vous n'allez pas perdre Minerval, mais reprenez les études. Je crois que c'est à ce niveau-là où je dois dire que c'est un général que j'apprécie beaucoup. C'est là où je demande aux officiers supérieurs de comprendre leur message, pourquoi ils ont prêté serment. C'est la défense des intérêts de l'État, c'est la défense de l'ordre constitutionnel. Et c'est ainsi que je voudrais terminer mon propos en disant que nous avons perdu un général qui n'était pas comme les autres. Peut-être qu'il y en avait, mais c'est celui-là que j'ai côtoyé, assez côtoyé, pour comprendre qui il était. Que Dieu ait son âme et que la terre lui soit légère.
Rappelons que le général Cyril Ndahiro Kiyé était incarcéré à la prison de Gitega au centre du pays. Il avait été arrêté en 2015 et condamné à la perpétuité après le coup d'État manqué contre feu le président Pierre Nkurunziza le 13 mai 2015. Et c'est ici que s'achève cette édition. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui a participé à sa réalisation. Merci également à vous tous pour votre fidélité. Au revoir et à la prochaine.